Montpellier, sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 15h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le Flash Info.
Bonjour à tous. 6000 membres des forces de l'ordre mobilisés à Marseille pour l'arrivée de la flamme olympique le 8 mai. Précision du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 150 000 personnes pourront assister à cette arrivée ainsi qu'aux animations et aux concerts qui seront organisés dans la soirée. 80 chiens spécialisés anti-explosifs vont être mobilisés dans le périmètre du Vieux-Port. Et justement, les 4000 bateaux du Vieux-Port seront aussi passés au crible du déminage. Avant d'arriver à Marseille, la flamme olympique va être remise aujourd'hui aux organisateurs français lors d'une cérémonie organisée à Athènes. C'est le président du comité d'organisation des JO de Paris, Tony Estanguet, qui recevra la flamme. Elle embarquera sur le Bellem demain. La mobilisation se poursuit à Sciences Po Paris. Des dizaines d'étudiants sont sur place pour défendre la cause palestinienne. Le comité Palestine de Sciences Po réclame notamment la condamnation claire des agissements d'Israël. Un mouvement similaire à ce qui se passe dans plusieurs universités américaines. La candidate LFI aux européennes, Rima Hassan, s'est déplacée sur place pour apporter son soutien. La France suspendue à la décision des agences de notation. Fitch et Moody's se prononceront ce soir sur la santé financière de l'Hexagone et donc sur la capacité du pays à rembourser sa dette. Le gouvernement a déjà prévu un plan d'économie de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Un centre de dépistage du choléra mis en place à Mayotte après 3 cas autochtones confirmés, c'est-à-dire des patients qui ont été contaminés sans quitter l'île. Ils ont été hospitalisés et sont en bonne santé. Outre le centre de dépistage, des renforts médicaux sont attendus et plus de 2000 doses de vaccins ont été commandées. L'efficacité du Befortus contre la bronchiolite. Santé publique France dévoile 2 études qui démontrent une très bonne efficacité du traitement préventif, entre 76 et 81% d'efficacité pour les nourrissons admis en réanimation. Et puis du foot ce soir avec le début de la 31e journée de Ligue 1 avec un match crucial dans la course au maintien. Montpellier reçoit Nantes à 21h. Voilà pour l'info, excellent après-midi.
La météo dans l'Hérault.
Bonjour à toutes et à tous. Le temps est nuageux et pluvieux aujourd'hui dans l'Hérault. Ce matin, on note entre 11 et 13 degrés sur l'ensemble du département. Cet après-midi, on pourra observer jusqu'à 17 degrés à Lunel. Demain, samedi, de la pluie sera toujours au rendez-vous. Il fera 13 degrés le matin et 16 degrés l'après-midi à Montpellier. Je vous souhaite de passer une belle journée à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
Radio Aviva à Montpellier, Carnon et Saint-Gély-du-Fesc, 88 FM, en DAB+, et partout dans le monde, radio-aviva.com.
Entracte.
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 Le magazine culturel de Radio Aviva.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui aux abords d'Ubisoft à Montpellier pour la sortie du tout nouveau Prince of Persia The Last Crown. Prince of Persia, un jeu de plateforme d'action-aventure se déroulant dans un monde inspiré principalement par la mythologie perse. 14 ans après le dernier opus, Les Sables du Temps, paru en 2010, Ubisoft annonce donc la sortie de son tout nouvel opus 14 ans après. Tout de suite, nous allons accéder aux locaux d'Ubisoft et rencontrer les équipes. A tout de suite. Nous sommes donc dans les locaux de Ubisoft à Montpellier, où nous sommes actuellement en compagnie des équipes de développement du tout nouveau Prince of Persia qui verra le jour ce jeudi. Donc nous allons sans plus attendre suivre les équipes, les rencontrer sur leur espace de travail. Nous allons notamment échanger avec Jean-Baptiste Rollin, qui est lead level artiste pour le pôle artistique de développement du jeu, ainsi que Lucie Guaran, qui est directrice technique des personnages du jeu vidéo. Donc tout de suite, leurs mots au micro de Radio Aviva.
Alors déjà il y a un travail de recherche avant, c'est-à-dire qu'il y a un travail de direction artistique au départ, qui est de choisir comment on va traiter différents environnements. Là, en l'occurrence, nous, nos références, elles se situent dans la Perse antique, donc on a commencé à chercher beaucoup de ce côté-là, notamment du côté de Persépolis, au niveau de la statuaire et de l'architecture en général. Mais on a été aussi chercher jusqu'à l'Inde, jusqu'à d'autres références en fait, parce que nous on construit une fantaisie, on est fait un travail d'historien, donc on prend un peu des références là où ça nous arrange, là où ça nous intéresse, et on essaie quand même de rester fidèle à l'esprit et notamment respecter la culture perse. Et donc, à partir de là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une sorte de Lego. C'est-à-dire, on va se créer ce qu'on appelle des kits qui nous servent à fabriquer les différentes architectures. Donc là, vous voyez un exemple d'un kit avec différents éléments, notamment des coins, des bouts de mur, des portes, etc. Tout ça séparé. Alors, vous verrez peut-être tout à l'heure avec Benjamin les outils qu'on a mis en place pour fabriquer cette architecture. Mais l'idée, c'est après de construire les niveaux. Sachant que nous, on sait où sera le joueur dans ce style de jeu, puisque ça vient d'un side-scroller. D'une vue en 2D. Et après, on va construire les niveaux avec ça. Donc là, vous voyez l'exemple, c'est un des premiers niveaux quand on arrive dans la citadelle. Et voilà, vous retrouvez les éléments qu'on a utilisés. Et nous, quand on reçoit le niveau, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a à peu près ça, et encore un peu moins. C'est-à-dire vraiment que les éléments collisionnables. Et c'est là que le travail commence pour nous. C'est-à-dire d'essayer de raconter des choses aussi par le level art, c'est-à-dire par l'image. Et de venir soutenir et la narration et le gameplay par l'image. Et avec, donc, comme on fabrique à peu près les différents mondes. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien derrière. Hein, on fait vraiment juste ce qui est nécessaire, notamment parce qu'il y a des problématiques de performance sur les différentes consoles. Donc forcément, l'idée, c'est aussi de ne faire que ce qui est vu. Et la chance qu'on a, c'est que c'est donc un jeu vu en 2D. Donc en fait, on va construire les éléments à partir de 3D. Et à partir d'un certain point, on va utiliser la 2D, c'est-à-dire vraiment des images pour avoir un rendu qui se rapproche plus d'une illustration que d'un rendu réaliste. Alors, c'est pas une complexité. En fait, les problématiques de lisibilité sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que c'est un jeu qui nécessite des réflexes, qui est rapide, qui est où il faut être très réactif. Et tous les éléments de décor qui pourraient être perturbants au sens où dès qu'on a trop de bruit dans l'image, nous ce qu'on appelle du bruit, c'est vraiment des petits éléments qui peuvent être perturbants. En fait, on essaye de s'en débarrasser et on a fait ces choix de direction artistique là justement pour gagner en lisibilité, en clarté sur vraiment le. C'est un jeu de joueur en fait. C'est un jeu de joueur, c'est-à-dire qu'on raconte des histoires, mais on est au service du gameplay et ce genre de jeu particulièrement, et c'est très très précis en termes de gameplay. Donc nous on essaie de servir ça au maximum.
Nous, ce qu'on fait tout ici, c'est en fait, on va créer des personnages et les faire vivre en fait dans le monde, dans le jeu. Et en fait, on va partir d'une statue en 3D, voilà, qui est comme ça. Et c'est vraiment une statue, un peu comme on peut voir une statue dans la vraie vie, pas immobile, un volume 3D, quoi. À ça, en fait, on va rajouter déjà des couleurs. Pour souligner un petit peu les volumes et pour pouvoir lui donner un caractère et puis pour l'intégrer aussi dans le monde. Donc il peut avoir après plusieurs tenues, par exemple une autre tenue, et c'est la même chose en fait, c'est un volume en 3D qu'on va essayer de faire bouger. Donc pour ça, on va lui mettre un squelette à l'intérieur, donc pour pouvoir le faire bouger dans l'espace. Donc voilà, les mains, les bras, tout ça. Hop. Et donc ça va nous permettre de lui donner plusieurs positions dans l'espace en fonction du temps. Et ça va nous créer des animations au personnage. Donc à cette étape-là aussi, on lui rajoute tous ses accessoires qu'il va utiliser au cours du jeu. Donc ses épées, son arc, tous les accessoires qu'il va utiliser. Donc voilà, avec ce squelette-là, on va pouvoir commencer à créer les animations du jeu. Donc là, par exemple, on va commencer, on va se dire, là, par exemple, dans une situation, il nous faudrait une contre-attaque sur un ennemi qui l'attaque. Donc on va se dire, on va le mettre en poste de parade au début. Puis après, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Donc on va chercher un peu. On va lui dire, ce serait bien qu'il arrive à sauter en l'air pour pouvoir le taper. Et puis après, il redescend. Et après, le jeu continue en fonction de ce que va faire le joueur. Donc ça, à partir de cette étape-là, on va pouvoir commencer à envoyer les animations dans le moteur du jeu pour pouvoir tester si c'est pas trop long, si c'est pas trop court, si on voit bien ce qui se passe dans, dans l'action, si toutes les silhouettes sont lisibles des personnages pour qu'on puisse bien différencier où on est encore. Parce que si on ne sait plus où on est quand on lance une animation, bah, du coup, c'est dommage parce qu'on perd la lisibilité du personnage. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on va envoyer dans le moteur et on va pouvoir itérer dessus, raccourcir un petit peu des durées, rallonger un petit peu certaines, modifier un petit peu les positions du joueur, du personnage dans l'espace. Et après, une fois que tout ça s'est calé, on va pouvoir combler tous les vides qui se passent entre la première image de l'animation et celle d'après, par exemple, comment on va faire pour arriver jusqu'ici. Et donc on va combler tout ça. Et ça va nous donner en fait l'animation qu'on va retrouver dans le jeu.
Nous marquons une petite pause musicale juste après la suite de votre magazine sur Radio Aviva. Aviva. De retour sur les antennes de Radio Aviva pour votre magazine au sein des locaux d'Ubisoft à Montpellier. Donc en première partie de ce magazine, nous avons eu la chance d'échanger avec Jean-Baptiste Rollin au niveau du pôle artistique du développement du jeu vidéo, mais également avec Lucie Guaran qui est directrice technique des personnages et qui a pu nous détailler l'élaboration technique et le développement des personnages pour ce nouveau jeu vidéo. Nous allons ensuite donner la parole à Jean-Baptiste Rollin qui est gameplay programmeur du jeu et qui va nous détailler le développement du gameplay sur le nouveau Prince of Persia.
Gameplay programmeur. Donc, je m'occupe de programmer vraiment tout ce qui va être les interactions dans le jeu. Ça va aller des différentes mécaniques de gameplay que nos game designers vont pouvoir imaginer. Aux ingrédients de level design pour que les level designers puissent créer les niveaux. Donc on va avoir tout ce qui est justement manipulation de notre personnage, le fait que quand on appuie sur A, on va sauter, mais aussi de quelle façon il va sauter, donc l'intégration des animations, des animateurs, ce genre de choses. Tout ce qui est, par exemple, interrupteur dans le jeu, le fait qu'on puisse interagir avec un interrupteur, et qu'est-ce que ça va entraîner derrière, donc, le fait que ça baisse, par exemple, dans ce cas-là, on fait baisser un petit pont levier. La gestion de la caméra qui va suivre le joueur et par exemple les ennemis qu'on va avoir dans le jeu, tout leur comportement, les prises de décision, comment est-ce qu'ils vont venir attaquer le joueur, pourquoi, tout ce genre de choses. Et ça va aussi sur des choses qui sont un petit peu plus cachées derrière, comme les systèmes de sauvegarde, les systèmes de progression, la carte. Donc c'est vraiment le point de convergence, on va dire, de la production où il y a tous les différents corps de métier en fait qui vont venir être intégrés un petit peu dans le travail qu'on fournit. Donc jouer les animations des animateurs, jouer des FX au moment où on a envie de les jouer des sons, tout ce genre de choses quoi. À peu près le travail qu'on fait au jour le jour, donc en tapant des lignes de code toute la journée. Un peu moins visuellement intéressant que certains de nos collègues de travail, mais tout aussi intéressant quoi.
Et au niveau du gameplay, qu'est-ce qui va vraiment changer et évoluer?
C'est-à-dire
au niveau du gameplay. Qu'est-ce qui va évoluer justement par rapport au tout dernier qui est sorti du coup en 2010?
Ah, alors on est sur quelque chose pour le coup de complètement différent là. Okay. On a une approche. Alors déjà en plus de 10 ans, il y a eu des évolutions aussi dans le game design globalement, où on a tiré des conclusions à force de faire des jeux vidéo, où on s'est rendu compte en fait qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas très intéressantes à faire pour le joueur, ou qui pouvaient être frustrantes. Donc voilà, on va déjà, ces choses-là vont évoluer. Après, bah là, on passe d'un jeu troisième personne d'aventure à ce qu'on appelle Metroidvania, donc un jeu d'exploration beaucoup plus ouvert, puis en 2D. Donc ça change aussi beaucoup, beaucoup de choses sur la façon dont on va approcher les contrôles du joueur. Après, il y a certaines choses qu'on va, qu'on va venir référencer. Par exemple, bah là, on va avoir, là, c'est plus côté animation tout ça, mais c'est justement, nous, on va l'intégrer aussi pour que ça le rappelle d'un point de vue gameplay. On a des super parades qu'on peut faire sur les ennemis, où là, bah, on a clairement le même style de choses qu'on pouvait voir sur le Prince of Persia, les Sables du Temps, pour pouvoir faire justement un rappel aux joueurs qui avaient joué à cette licence-là. Voilà. Mais on reste quand même assez loin, finalement, d'un point de vue gameplay. Manette en main, on va dire, de ce qu'on faisait à l'époque sur Prince of Persia, même si on va retrouver tous les puzzles, tout ce genre de choses, mais qu'on va remettre un petit peu à la sauce moderne, avec les influences qu'on a pu trouver aussi entre temps, comme des jeux comme Hollow Knight, comme Céleste, qui sont beaucoup plus demandants d'un point de vue plateforme que ce qui se faisait aussi à 13 ans.
Nous nous dirigeons à présent vers la salle de conférence de presse où l'on pourra échanger quelques mots avec István Rajnai, qui est le directeur général d'Ubisoft Montpellier. Nous pourrons notamment parler et échanger autour du développement de ce jeu. Comment est-ce qu'ils ont fait pour défier la concurrence et rester néanmoins dans la course malgré 14 ans d'attente? Tout de suite, les mots du directeur d'Ubisoft Montpellier au micro de Radio Aviva. Monsieur István Rajnai, directeur général d'Ubisoft à Montpellier, pour les auditeurs de Radio Aviva, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette fierté d'avoir développé ce jeu du début jusqu'à la fin dans ce studio de développement à Montpellier?
Bah écoutez, comme vous le disiez, pour nous c'est une grosse fierté d'avoir eu l'honneur de faire revivre la marque Prince of Persia par un tout nouvel opus, donc Prince of Persia de Lost Crown, comme vous l'avez dit, conçu, pensé et développé entièrement à Montpellier sur ces 4 dernières années. La raison pour laquelle nous l'avons fait ici entièrement, c'est un projet, on va dire de passion, un projet d'amour. C'est vraiment venu de l'envie de l'équipe, de cette équipe experte avec un savoir-faire très fin sur le genre de la 2D et une envie de structure à la Metroidvania avec vraiment des accents de jeux de combat très 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 poussés. Oui, essentiellement c'est venu d'une envie de l'équipe on a donc convaincu le groupe Ubisoft de le faire ici on a convaincu le groupe par la passion de l'équipe et par l'envie de l'équipe de vraiment de sortir un jeu d'exception.
Donc on a vu que Ubisoft est quand même un grand nom du jeu vidéo français, donc avec des marques telles que Assassin's Creed, For Honor, Far Cry, Tom Clancy's, Rayman, Les Lapins Crétins et j'en passe. Comment est-ce que justement vous avez fait pour rester compétitif, surtout en continuant une saga de la renommée de Prince of Persia?
Bah écoutez, pour rester compétitif dans l'esprit des joueurs ce que les joueurs attendent d'une licence comme Prince of Persia, il faut évidemment être très vigilant et être vraiment connaître très très bien les codes du genre, les codes de la licence. Donc il est vraiment très très important de respecter ces codes-là pour que les joueurs Prince of Persia retrouvent un contexte familier, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau de l'univers, de l'atmosphère, mais en même temps d'innover suffisamment pour surprendre. Et c'est toujours là l'équilibre très très fragile et très complexe à trouver entre le respect on va dire, de son audience et le respect, on va dire, de l'historique d'une marque. Et puis, la modernité, aussi le fait de on va dire, de rendre ce genre accessible aux nouveaux joueurs qui n'auraient pas connu les opus précédents. Donc voilà, l'équilibre est toujours fragile à trouver. Après, on le trouve plus facilement avec, évidemment, l'expérience, mais aussi en sollicitant l'avis des joueurs, en jouant beaucoup soi-même. Donc voilà, je pense que c'est cet équilibre-là entre respect, on va dire, de l'ADN de la licence et de l'historique de la licence et on va dire et l'innovation et puis le côté on va dire surprenant, notamment de la narration, du gameplay, du combat très très poussé pour un Metroidvania ou en tout cas une structure de Metroidvania.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission avec nous en direct dans les studios d'Ubisoft à Montpellier. Pour rappel, le tout dernier Prince of Persia The Last Crown est sorti jeudi dernier en date du 18 janvier 2024 et est disponible sur toutes les plateformes de jeux vidéo Nintendo Switch, PlayStation, Xbox ainsi que PC. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur Radio Aviva.
Entracte.
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 Le magazine culturel de Radio Aviva.
Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+, en voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+.
Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi. Le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux. Le cri de ton cœur lui sonnait faux, comme mes toutes premières compos. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Son parapluie. Jardin d'hiver, la fleur est fanée. Je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer. Je ne te reconnais pas. Pourquoi tous ces mystères? Mais dis-moi à quoi tu joues. Je vis sous le même toit qu'une étrangère qui s'éloigne jour après jour. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Madame se fout de dos, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame se fout de dos, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits. Son parapluie. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Elle sort sans son parapluie. Yeah.
Radio Aviva, le Mac de la Rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes en compagnie de Tanguy Solérol. Vous faites partie de la direction artistique et vous êtes cofondateur de la Galerie Éphémère. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu nous faire un bilan de la journée mondiale des zones humides qui s'y a été mise à l'honneur les 2, 3 et 4 février dernier à la Galerie, ainsi que pour nous parler un peu de la programmation de cette dernière. Est-ce qu'en un premier temps, vous pouvez nous parler de cette journée mondiale des zones humides ?
Alors la journée mondiale des zones humides, c'est une journée anniversaire qui est internationale et qui célèbre la signature du traité de Ramsar, donc qui est une convention qui a pour but de protéger justement les zones humides, qui sont les marais, les tourbières, les lagunes, les mangroves, entre autres.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est déroulée la journée, comment est-ce que vous avez été mise en avant, comment la journée a été mise en avant dans la galerie ?
Alors, la Galerie Éphémère intervient chaque année, donc le 2 février, qui est la date anniversaire de la signature du traité de Ramsar, qui a été signé en 1971, si je ne dis pas de bêtises. Et ça prend place, en fait, on est sur le site des Salins de Villeneuve, donc qui est une zone protégée et qui est une zone humide. Et du coup, le festival intervient sur ce site-là pour, avec comme but de sensibiliser, d'avoir une sensibilisation environnementale par le biais artistique. Donc, avec des artistes qui investissent un bâtiment qui est abandonné et où ils mettent en place des installations artistiques. On a aussi, sur l'aspect environnemental, des partenaires qui interviennent avec différentes activités, des balades sur site pour découvrir les oiseaux, des ateliers pour les enfants, de la découverte de la faune et la flore. Et voilà, on a différentes structures, donc le LPO Occitanie, Cosciences, le CIVAM et ADENA.
Est-ce que l'événement a attiré du monde ou pas cette année ?
Alors cette année, on a deux chiffres. On a la fréquentation sur site. Nous, on est à 6000 personnes sur site. Et après, il y a les visites de la galerie. Donc on a eu 4000 personnes en galerie. La différence est due au fait qu'il y a des gens, c'est un site qui est ouvert, donc il y a des gens qui sont sur site et qui ne sont pas au courant qu'il y a un festival, donc on les comptabilise quand même sur le site. Et après, on perd un peu de gens aussi, parce que le dimanche, on a énormément de gens et la file d'attente peut monter jusqu'à 1h30 ou 2h. Et donc forcément, on comprend bien qu'il y a des gens qui n'ont pas le courage d'attendre.
Et quel type de public était attendu ?
Alors on fait en sorte que l'événement soit ouvert à tout le monde, que ce soit un public large et familial. Et c'est ce qui se passe chaque année, parce que là on est à la 12e édition. Et on a un public, vraiment, on a des amateurs d'art, on a des personnes qui, des amateurs de nature. Et on a des personnes qui viennent se balader le week-end en famille, parce qu'il y a un bâtiment fermé à l'année qui est ouvert avec des artistes, des installations, donc... C'est le mélange de la balade, de l'événement et des différents thèmes abordés qui ramènent le public. Et c'est vraiment un public très large.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le concert, ce qu'a apporté pour, selon vous, cette journée? Enfin, est-ce que ça a apporté, ça a envoyé un message? Est-ce que ça a expliqué un petit peu l'importance des zones humides?
Ben, on se retrouve sur un site avec un contexte ou deux qui sont de parler d'environnement et d'art, parce que l'événement parle aussi, enfin, il y a aussi une sensibilisation aux arts actuels, dans le sens où on présente des artistes émergents et locaux. Du coup, les discussions se font automatiquement sur site où on a beaucoup de bénévoles, on a beaucoup d'intervenants, donc on est disponible aussi auprès du public. Pour pouvoir justement parler des différents thèmes, que ce soit de la gestion du site, de thèmes particuliers qui sont évoqués dans les pièces des artistes. Donc il y a de vrais moments d'échange, et ne serait-ce que même les gens entre eux, quand ils viennent à plusieurs, tous les échanges qu'ils peuvent avoir au sein de la galerie, quand on passe à l'intérieur, on entend bien que les gens discutent. Donc il y a une réflexion qui est faite autour de l'environnement et autour de l'art aussi, quand les gens se confrontent aux pièces.
Et est-ce que vous pensez que l'événement aura lieu à nouveau l'année prochaine, ou est-ce que vous savez d'avance ou pas encore? En exclusivité,
alors,
peut-être.
Alors, dans l'idée, oui, il aura lieu. Après, comme tous les événements séparés d'un an, il y a différents facteurs qui rentrent en compte. Mais en tout cas, pour l'ensemble de l'équipe et des partenaires, dans l'idée, oui, ça aura lieu.
Et dernière petite question, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu et nous expliquer avec vos mots, bien sûr, ce qu'est le Conservatoire d'espaces naturels en Occitanie et son rôle un petit peu?
Alors le Conservatoire d'espaces naturels gère des espaces protégés, fait de la gestion et du suivi, entre autres, parce que je n'ai pas toutes les missions du Conservatoire, parce que moi je n'y travaille pas.
Bien sûr.
Mais je vois en tout cas, parce que je connais bien le site des Salins, donc je vois ils ont la gestion, ils sont en co-gestion avec la 3e et 7 Aglopole sur le site. Donc c'est vraiment l'accueil du public, la gestion du site, le suivi des espaces. C'est vraiment la protection dans sa globalité et la gestion des espaces naturels.
Eh bien, je vous remercie pour ces précisions et explications de cette journée. Nous sommes en compagnie de Tanguy Soulérol, qui fait partie de la direction et qui est le cofondateur de la Galerie Éphémère, qui a accueilli la Journée mondiale des zones humides du 2, 3 et 4 février dernier. On se retrouve après une courte pause musicale. À tout de suite.
Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound.
retrouve, mesdames et messieurs les auditeurs, après cette petite pause musicale, toujours en compagnie de Tanguy Solérol, qui fait partie de la direction artistique et qui est cofondateur de la Galerie Éphémère. Dans cette première partie, vous nous avez parlé de la Journée mondiale des zones humides que la galerie a accueillie les 2, 3 et 4 février dernier. Maintenant, on aimerait vous parler, on aimerait que vous discutiez un peu avec nous de cette dernière, donc de la galerie. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle là-bas ?
Alors moi je fais partie d'un CARTAD qui est la structure de direction artistique du festival, donc on gère vraiment toute la partie galerie. Après on est en lien avec la gestion environnementale et avec les ateliers. Donc nous on s'occupe à l'année de chercher les artistes, de les encadrer, de préparer aussi la résidence, parce qu'on a une semaine de résidence avant le festival. Donc on est vraiment au contact des artistes et on s'occupe de la transmission publique aussi, comment rendre accessible le maximum de choses présentes sur place.
Qu'est-ce que la galerie met en avant, en principal ?
Chaque année, on invite les artistes à traiter des thèmes environnementaux sans les imposer. Donc ça peut être la faune, la flore, on leur propose aussi, sur un aspect patrimonial, de travailler sur le passé du site. On est sur un ancien site d'exploitation du sel, donc il y a un côté industriel qui peut être traité. Certains artistes parlent de ça. L'idée, c'est d'avoir une cohérence, c'est d'avoir des artistes qui sont sur un lieu qui est un lieu chargé de plein d'histoires. Et puis voilà, on est sur un site naturel. C'est qu'ils puissent créer un lien avec ce site, que ce soit par la protection environnementale ou par son passé.
Et est-ce que vous, personnellement, vous vous sentez touché par les sujets que les artistes peuvent aborder ?
Alors les sujets, oui. Après c'est par quel prisme ils l'abordent. On peut parler d'un même sujet de différentes façons. Et moi personnellement, ce qui va pouvoir me toucher, ça va toujours être l'axe et la finesse à travers laquelle, et l'originalité à travers laquelle les artistes vont aborder tel ou tel sujet.
C'est vrai que c'est important, surtout quand on dirige, je trouve, quand on est cofondateur en tout cas d'un endroit, avoir des valeurs qui sont en lien avec ce que vous présentez, je trouve ça vraiment bien et important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous sélectionnez les sujets et les artistes qui viennent à la galerie ?
Alors les artistes, tout au long de l'année, donc avec un CARTAD, on est présent sur le milieu culturel, on est en lien avec pas mal de partenaires culturels, donc on rencontre les artistes sur les expositions, sur les événements concrets, dans leurs ateliers. Donc tout au long de l'année, on essaie de découvrir un maximum de nouveaux artistes, parce qu'on est sur les émergents et locaux. Et du coup, on recense tout un tas d'artistes, et quand on passe à la programmation, on essaie d'avoir une programmation cohérente, de montrer le maximum de techniques possibles, et aussi d'influence culturelle, que ce soit classique, alternatif, contemporain, pour présenter d'un point de vue artistique quelque chose de large au public.
En parlant de programmation, justement, est-ce que vous avez des événements qui arrivent là à venir ?
Alors, rapidement, non. Mais par
même
contre,
pas forcément rapidement, hein, sur le long terme aussi.
Non, mais par contre, on est en partenariat avec le studio 411, avec qui on travaille régulièrement. Et il y a un finissage d'exposition vendredi prochain à 18h, qui est l'exposition de Pablito Zago, qui est organisée par le collectif Figure, dont je fais partie. Et voilà, finissage vendredi prochain à 411 sur Clémenceau, à partir de 18h.
D'accord. Et en dernière petite question, est-ce que vous avez un petit mot à adresser à nos auditeurs ?
C'est pas bon. Merci pour votre attention.
Venez nombreux peut-être.
Voilà, c'est ça.
Tout le monde peut venir à la galerie ? Il n'y a pas de limite d'âge ou de restrictions particulières ?
À la galerie éphémère ou
à la galerie éphémère.
Allez, non, c'est ouvert à tout le monde.
Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions, surtout à celles qui étaient peut-être les plus compliquées pour vous. Votre émission est à présent terminée. Vous pourrez la retrouver en podcast sur le site de la radio et peut-être sur le site de la galerie même. Nous étions en compagnie de Tanguy Solérol, qui fait partie de la direction artistique et qui est cofondateur de la galerie. Encore merci.
Merci beaucoup.
Et à bientôt sur Radio Aviva.
Aviva. C'était le Mac de la Rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com. Radio Aviva à Montpellier, Palavas et Saint-Mathieu-de-Trévier, 88 FM en DAB+ et partout dans le monde, radio-aviva.com.
éclectique, Radio Aviva. Xavier Nataf.
Retrouvez-moi tous les jours à 14h pour 30 minutes coups humains de recommandations culturelles, de portraits au long cours, de collages sonores et de musique éclectique.
To look.
Radio Aviva.
Feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you.